Par exemple, on pense rarement au fait, par exemple, qu'Ernest Solvay était un penseur anarchiste et qu'elle avait introduit dans ses entreprises la disparition de l'argent, c'est-à-dire la gratuité à l'intérieur même de ses entreprises. Il y a des solutions comme celle-là. La gratuité, c'est un remède à beaucoup de difficultés qui se posent à nous aujourd'hui. Il y a des gens qui essaient de modifier l'argent, de créer de l'argent, de la monnaie fondante ou des monnaies parallèles, etc. Il y a une autre solution, c'est la gratuité. C'est la gratuité sur beaucoup des choses. On pourrait introduire la gratuité sur les choses qui sont absolument indispensables dans notre vie quotidienne.
Au point 4, on en est aux générations futures qui hériteront d'un monde dévasté. Et dit votre interlocuteur, c'est leur problème. Est-ce que la COP21 est venue calmer ces choses ou c'est un leurre ?
Non, malheureusement, on a vu, c'est pas la première fois qu'on essaie de prendre des mesures dans le du côté de l'environnement. Et il y a eu l'accord de Kyoto il y a quelques années, mais on s'est aperçu que depuis qu'on a pris des grandes décisions là sur comment il fallait réduire les émissions de carbone, en fait, je crois qu'elles ont encore augmenté de 60%. C'est-à-dire que même quand nous prenons des décisions, même quand nous essayons de, je dirais, véritablement de les appliquer, nous ne sommes pas encore très bien équipés pour les mettre en pratique. Toutes ces grandes décisions sur des choses qu'il faudra faire d'ici 2027, etc. Tout ça va beaucoup trop lentement. Et surtout, tout ça est encore fait dans une perspective de sauver la planète à condition de pouvoir en tirer un profit commercial. Sauver la planète, sauver notre espèce à la surface de la planète, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra faire, il faut bien le dire, dans la perspective de encore gagner de l'argent là-dessus. C'est un problème beaucoup trop sérieux.
Alors au point 3, au moment 3, on est à la crise financière, crise environnementale, crise de la complexité qui mêlée risque de faire complètement tanguer les skiffs. Et au 2, l'intelligence artificielle arrive, de père inconnu, dit-il, sa maman s'appelle l'armée.
Oui.
C'est vrai que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est galopante et personne dans les enceintes politiques n'en parle ou n'en mesure les avancées structurelles.
Non, il faut penser, c'est vraiment aux philosophes pour soulever ces questions. La question la plus importante, elle est bien symbolisée par Monsieur Ning, qui était un grand chercheur à Stanford, d'origine chinoise. Il s'est rendu, c'est l'année passée, il s'est rendu en Chine, il a quitté les États-Unis et il va lancer une grande entreprise d'intelligence artificielle dont il dit qu'elle doit être à l'échelle du projet projet Saturne aux États-Unis, mais ça va se faire sous l'égide de l'armée rouge chinoise. Et moi, c'est une expérience qui me rappelle l'époque où je travaillais dans ce domaine de l'intelligence artificielle. C'était la fin des années 80 et un jour, on nous appelle à l'équipe de British Telecom et on nous dit, on est obligé de reconnaître devant vous qu'en fait, vous n'avez jamais travaillé pour nous, vous travaillez en réalité pour le ministère de la Défense et c'est parce que c'est la fin de la guerre froide et que les budgets sont en baisse qu'on est obligé de vous le dire. Ça fait longtemps en fait que la plupart des fonds pour l'intelligence artificielle de manière donc directe ou de manière implicite vient en réalité du militaire.
Oui, tout comme d'ailleurs l'actuel web et internet venait de l'ARPANET qui était effectivement une invention strictement militaire.
Tout à fait, on apprend encore aux enfants des écoles que les grandes découvertes médicales se font en général dans l'urgence justement des guerres.
Sans vouloir évidemment jouer à l'aspect trop catastrophiste, mais cette intelligence artificielle dont on sait combien elle va devenir co-symbiotique, j'utilise le mot en me souvenant de Joël de Ronay qui inventait le concept d'homme symbiotique,
hein. Oui, oui.
Elle va devenir co-symbiotique de l'homme, c'est un progrès ou c'est un risque pour l'espèce ?
Mais c'est les deux. C'est la même chose que l'argent, c'est la même chose que la finance. Ça dépend du contrôle, de la maîtrise qu'on a, et surtout, à mon sens, de le placer dans le cadre d'une éthique. Le problème qu'on a eu essentiellement avec la finance, c'est que depuis deux siècles, on a dit qu'il n'est pas nécessaire de placer ça dans le cadre d'une éthique. Ça a sa propre rationalité. Alors, quand on nous parle maintenant de système de munitions autonomes, alors on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est un système de munitions ? C'est quelque chose qui va tirer autonome, c'est-à-dire que ça va prendre ses propres décisions sur le moment de tirer et sur quoi. Alors là, bien sûr, il y a un danger. Tout le monde voit l'image du film Terminator, de voir des machines en guerre contre nous. Mais la difficulté que nous avons, c'est que le contrôle que nous avons sur les choses, finalement, quand quelque chose est vendable, on se pose pas tellement la question du contrôle qu'on peut en avoir ou qu'on ne peut pas en avoir. Ceci dit, il est bien possible, là, il y a des gens, je dirais, très intéressants, comme M. Martin Riske, l'astronome royal britannique, c'est-à-dire vraiment une personnalité dans le domaine de l'astronomie, qui nous dit, eh bien, il se fait que nos espèces, les contraintes sur une espèce comme la nôtre, de devoir ingérer de l'oxygène toutes les 5 ou 10 secondes, de devoir boire de l'eau toutes les heures, etc., ce sont des contraintes tout à fait extraordinaires. Et un progrès, pour nous, ce serait de nous remplacer nous-mêmes par des choses qui n'auront pas besoin d'accéder à l'oxygène toutes les 5 secondes. Parce que, imaginez, un robot sur la planète Mars, et il y en a un qui est en train de se déplacer là, il le fait très 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 bien dans un environnement où il n'y a pas ces contraintes de trouver de l'eau ou de trouver de l'oxygène.
On nous annonçait d'ailleurs tout à fait aujourd'hui la mise au point maintenant formelle d'un ordinateur dont la capacité de penser est en termes de milliards de milliards par seconde de données injectées. On nous annonce, certains nous annoncent, on le sait au cœur même de Google, que dans 30 ans maximum, on aura un ordinateur dont la taille sera suffisante que pour y déposer le contenu d'un cerveau humain.
Oui. Mais vous savez, il y a quelque chose de très frappant. L'année passée, au mois de juin, dans la revue Wired, qui s'occupe vraiment de toutes ces questions justement liées à l'informatique, il y avait encore un article important qui nous disait le jeu de Go. Dans le jeu de Go, eh bien, il faudra encore un grand nombre d'années avant que la machine fonctionne mieux que l'humain. Pourquoi ? Parce qu'il y a un très très grand nombre de possibilités que même l'ordinateur ne peut pas calculer. Il faut une intelligence de type intuitif pour comprendre comment ça marche. Or, en mars, c'est-à-dire même pas une année plus tard, des grands champions de Go ont été battus maintenant par la machine. On nous parle de quelque chose qu'on appelle la singularité, qui est le moment où les ordinateurs seront plus intelligents que nous sur la plupart des choses que nous faisons, ou même la quasi-totalité. Et quand on me demande quand ça va avoir lieu, à mon avis, si c'est 2020, 2030, moi je réponds toujours 2013. C'est une boutade, mais c'est pour attirer l'attention sur le fait que ça a peut-être déjà eu lieu.
Au décompte, nous en étions à 1, la démocratie est enchaînée. Quand on arrive à 0, votre interlocuteur a eu la prudence de mettre un point d'interrogation, il dit pas encore, pas tout à fait. Il nous reste l'équivalent de 2, peut-être 3 générations pour réagir et tenter d'éviter la tragédie. Mais la prise de conscience, la projection d'une utopie, ça prend plus que 2 générations.
À moins qu'il y ait une prise de conscience très très rapide, et c'est pas impossible. Moi, je crois quand même notre espèce a une difficulté, c'est-à-dire que se représenter l'extinction, c'est quelque chose. Se représenter un événement qui n'a pas encore eu lieu jamais, c'est vraiment très très difficile, parce que nous associons la peur ou la joie à des choses que nous connaissons déjà, mais des choses qui n'ont jamais eu lieu, c'est très difficile. Mais ça ne veut pas dire que devant l'obstacle et vraiment la grande difficulté, qu'il n'y ait pas une prise de conscience. D'autant que la communication entre nous parle. Internet a été démultiplié par rapport à ce que c'était autrefois. Quelqu'un qui écrit des livres, il peut écrire maintenant un livre en 4 mois alors qu'il aurait dû consacrer 4 années à le faire. L'information circule de manière immédiate. Il y a les choses qu'on appelle virales. C'est le fait qu'une information peut aller très très vite maintenant et peut être... Et de la même manière, j'ai l'impression qu'une prise de conscience de la situation dans laquelle on est, elle peut avoir lieu de manière immédiate. Je ne pense pas qu'il y a quelques années, mon livre serait épuisé en quelques jours, mais simplement c'est parce que maintenant la communication entre les gens qui le lisent et qui disent à d'autres qu'il faudrait le lire se fait de manière quasi instantanée.
Merci Paul Jorion en tout cas d'être venu nous en parler. Le dernier qui s'en va éteint la lumière. C'est un essai sur l'extinction de l'humanité que je nous engage en tout cas à prendre très au sérieux. C'est publié chez Fayard.
Retrouvez Face à l'info tous les jours de la semaine de 18h30 à 19h.